Alors, évidemment, comme on a la chance d'avoir David avec nous, on va l'exploiter un maximum et on va lui donner quand même la parole d'entrée de jeu pour qu'il puisse un peu expliquer sa démarche qui semble assez évidente dans les films, mais qui parfois aussi nécessite quand même des informations de peut-être plus théoriques qui sont pas forcément évidentes dans les films, bien qu'il y ait beaucoup de réflexions, je pense, sur la manière de faire des films qui sont investis dans à la fois la qualité du travail de caméra, le travail de montage, le rapport individu-collectivité, la vie à l'intérieur d'un lieu, comment est-ce qu'on fait exister un lieu. Enfin, toutes sortes de réflexions qui sont des problèmes très importants de la cinématographie. Alors, David. Ah bon, magnifique.
J'ai tout compris, oui.
D'accord.
Alors, I believe this discussion this morning, we've been asked to talk about the subject of different strategies that filmmakers might follow to represent the experience of everyday life, how people in different societies, different communities actually experience the world around them. I might just throw out a couple of possibilities that then we could debate further and probably also add some other ideas. But it seems to me that there are a number of different means by which we bring the audience into the experience of other people. Of course, we can never actually have the experience of other people. This has to be understood. But filmmakers may try to bring us close in the same way that a novelist, for example, might try to give us some sense of the interior life of the characters. Of course, we cannot get into their minds. We can watch them. We can find different ways. I think one of the primary methods is through identification, I would say, with particular protagonists in our films. And this is the same as in a novel, for example, in the same way that an author will develop certain characters we become close to. In films, we can follow certain characters, certain protagonists, and by, in a sense, looking over their shoulder, have a sense of their experience and start to care about them, to care how they will confront the challenges that they face in life. So this identification is important, I think, and also narrative, the kinds of films that allow us to follow a series of events with a protagonist. So this might be one strategy. We would find a person or persons in the field whom we follow closely with the camera, and we develop a story or a narrative around their lives. So identification would be one strategy. Another, I think, is simply observation. If we observe closely how people respond to their circumstances, if we observe the expressions on their face, if we observe their behavior with other people, this gives us a sense of their own response to life. It doesn't necessarily require that we identify with them. We might dislike them even. But, I think simply through observation, close observation, sympathetic observation of the filmmaker, we also can achieve this sense of their subjectivity, how they are experiencing things. So that might be a second strategy. A third strategy would be something more than observation. It would be a more direct participation with the subjects of our films. And perhaps we'll talk about this more this afternoon, but it seems to me the kind of interaction that you can have with somebody on the screen as a filmmaker can produce, again, a sense of their response to you as a filmmaker. Of course, the clearest example is through interview. But interviews can be very formal, they can be very informal, they can become, in fact, a kind of conversation that develops throughout the film. So this would be a more participating role for the filmmaker, a more provocative role sometimes. And I think the last strategy I would mention would be the evocation of sensation itself, of the sense of the world through its objects, through its colors, through its textures. And this the filmmaker does by paying attention visually and through sound to these small details of life, whether it's a plastic cup or a table or somebody's hands, the textures of the things that are all around us. This is important also, I think, in giving the audience a sense of experiencing this particular world in which people live. So I think these are some of the things we could begin to consider.
That's a good start. Bon, Colette, peut-être que je peux te poser un peu la même question, puisque tu es confronté à ces problèmes depuis pas mal de temps aussi. Micro.
Après cette vue globale et générale du film qui tient compte de l'expérience subjective, je vais dire des choses beaucoup plus concrètes et terre à terre. Moi, je pense que les films qui veulent s'approcher des personnes et qui cherchent à entrer un peu dans leur vie, ce qui me paraît tout à fait essentiel, c'est la confiance. C'est-à-dire, c'est l'empathie qu'on peut avoir avec les gens. Et c'est bon pour tous les films documentaires que nous faisons, nous cherchons toujours à avoir une relation. Mais je crois que quand il s'agit de la vie quotidienne, où on veut s'approcher au plus près, alors là, vraiment, il faut une véritable confiance. Et ça prend un certain temps, en général. Il faut que les gens soient parfaitement naturels, le plus naturel possible. Et pour ça, vraiment, c'est ça. Donc moi, j'insisterai sur l'aspect confiance, relation en profondeur avec les gens. Et empathie. C'est Eva Toulouse là, qui s'occupe de la traduction qui a attiré mon attention là-dessus. Le mot empathie même, au fond, que je n'utilisais pas. Et je crois qu'elle a raison. Elle dit que dans la traduction, on fait attention à avoir une certaine empathie avec la personne qui parle. Et je crois que pour le cinéma, c'est aussi ça. Il faut qu'il y ait une relation qui s'établisse avec la personne que l'on va filmer.
D'accord. Alors, Peter, avec la sorte de triple expérience qui est la tienne d'être à la fois un enseignant d'anthropologie visuelle, un cinéaste et aussi quelqu'un qui couvre le champ de l'anthropologie visuelle par l'activité de la revue et le suivi des festivals, etc. Alors, comment tu te situerais dans cette problématique?
Well, that's true, and that's a bit of a balance every now and then. By the way, I think I've just discovered that I think we may have a problem in this round table because maybe we agree too much, though those of us who are sitting here. But maybe, Letitia, you can say something against me in a minute. I would like, as Colette, to take my point of departure again in something concrete, which is actually bringing together the fields that you're mentioning of both anthropology, filmmaking, but also teaching ethnographic filmmaking. On my way here, I was at the International Ethnographic Film Festival in Göttingen, as was David, by the way, for a couple of days. And in the student section, there was a film by a Swiss student about a very spectacular phenomenon, which is called parkour. I don't know if you're all familiar with parkour, but it's young people, it's a kind of subculture which is spreading rapidly around the world, where they climb official buildings, staircases, and do a kind of acrobatics. It's what I would call a kind of a sophisticated hip-hop culture with more acrobatics involved. And it was interesting because less than 12 months ago, I saw another student film about exactly the same phenomenon, and I'd never heard about it myself before. This was a film from Manchester. And the point I wish to raise initially is this thing that what is everyday life? Now, this phenomenon, parkour, is extremely spectacular, and you can't help but be seduced by images of it because it's almost like fiction you're watching. But yet, for these young people who perform it or do it, it is to them everyday life. It's what their life is full of. And in both films, I think they did the strategies that they chose had to do with the fact that they didn't quite know how to deal with the spectacularity of the phenomenon, which meant that the film, not only did the viewer get seduced by the spectacle, but the film itself got seduced by it, which meant that they never really got round to getting the subjective voice of the people in the film. What they both films did was you saw these jumping around and climbing buildings, and then it was intercut with interview sequences, rather formal interview sequences rather than the conservation type, which distanced you completely from the people themselves, which meant that you never ended up getting any kind of impression or knowledge or perhaps even building up an empathy for these people. And I think it has a lot to do with how we can manage to deal with everyday life that is spectacular and how we get drawn to spectacularity, because that's perhaps what we consciously or unconsciously think that people want to see. It's spectacular, I find it spectacular, therefore you find it spectacular, which I have no problems with unless it actually means that we never get access to the people, the culture in the film, or in that type of film. I think, as Colette is getting at, that it has a lot to do with the amount of time that you spend together with people. And I would like to introduce perhaps the notion of patience in this context as being what I would describe as one of the most important aspects of ethnographic filmmaking, as opposed to many other kinds of filmmaking or indeed television productions, where time plays an overarching important role in ethnographic filmmaking. Not only the fact that we stay a long time in the field, which David did in all the films that he's made, but also that when we're in the field and we start shooting, and we don't start necessarily impatiently, we start perhaps patiently, but there are at least three levels of patience that I'm talking about. It's patience with the people with whom we're filming, some of whom become protagonists, and we do tend to, for cinematographic reasons, focus on individuals because that's the only way, really, of building up a narrative that enables the audience to recognize people and feel an attachment to what's going on. But it still requires a kind of patience with people that you far too often, in other kinds of film, see is not there, and most explicitly, perhaps, in many television productions, what I would call hit-and-run filmmaking. You fly in a crew, they're there for a very short time, and fly out again. So they never have the patience to really build up the kind of trust and relationship with people. But the other aspect, the second aspect of patience, I would say, regards the camera. The kind of shooting that is employed in what I've just described is you shoot when action is there. As soon as there's no action, you turn off the camera. And that is based on the assumption that significance, meaning, knowledge is based on action taking place. Whereas anthropologists, we know that very often most of knowledge and most of meaning actually is generated and emerges when there is no action. And that is a dilemma in it. And then finally, about that point with the camera, what it means, for example, is that you leave the camera on. And leaving the camera lingering means that you may capture that moment that they never capture on television because they're too impatient. They turn it off, and then the 30 seconds of silence that they miss, but that can be salvaged in the editing room, of course, the 30 seconds of silence is the crucial moment because the silence is full of meaning. And then finally, the patience of editing, that you, through your editing, put your material together in a way that is patient also in relationship to the two other levels, the people that you're dealing with and the camera. And again, very often we see films that are impatient, again, not wanting to show anything that has no action in it, or if we push the argument, referring to my introduction, that has no spectacularity in it. As soon as nothing is spectacular, we have to move on. Nobody wants to watch nothing not happening. And that, I think, is an enormous problem that we're trying to deal with in ethnographic film. And I think it's these dilemmas and these problems, this push of the concept of patience, whether we actually use that concept or not, is something which has come out throughout David McDougall's filmmaking, and we'll see many examples of it today. But I know you're impatient, so I'll pass the microphone on, maybe.
Well, it's interesting maybe we can come back later on that the literature has been through the same type of problem.
Absolutely.
Too. So, Laetitia...
Oui, mais je peux continuer aussi sur ce que disait Peter. So I totally agree with what you said. See? Et justement, parce que dans le dernier livre de David McDougall, il parle aussi de certaines caméras qui peuvent être totalement aveugles, en fait. Parce que ce n'est pas une question d'être un bon opérateur ou de savoir utiliser une caméra, mais c'est de savoir quoi regarder avant d'utiliser une caméra. Et donc David parle de ces caméras aveugles qui peuvent être des caméras de surveillance, mais qui peuvent aussi être un défaut quand on est jeune réalisateur, de chercher l'image, de partir à la chasse un peu à l'image, à la situation, et d'être toujours dans l'impatience de trouver quelque chose d'intéressant à filmer. Et c'est un peu le... Quand j'ai vu, la première fois que j'ai vu un film de David McDougall, c'est un peu le choc que j'ai eu. C'est que c'était de la vie quotidienne, et je voyais des gens qui me parlaient directement, j'entendais leur voix, et je voyais cette autre exotique, notamment donc en l'occurrence une femme africaine, qui me parlait directement, et je comprenais tout ce qu'elle disait, parce que c'était sous-titré. Et je disais, mais ça c'est juste évident, et puis en même temps c'est d'une force incroyable. Et j'ai commencé à me demander pourquoi je n'avais jamais vu ça avant. Je commençais même à douter, à me dire, bon, j'ai dû voir des films comme ça avant, mais je ne m'en souviens pas. Et en fait, je me suis aperçue que non, je n'avais jamais vu ça avant. Et je trouvais ça complètement incroyable qu'un dispositif aussi simple, finalement, juste de regarder les gens vivre, de leur parler, de les écouter, et de faire partager ça, pouvait être d'un si grand impact. Et ce qui est important dans cette confiance qu'on peut avoir avec les gens, c'est aussi la confiance qu'on a en son propre regard. C'est-à-dire que quand on a un dispositif aussi simple de filmer la vie quotidienne et d'écouter ce que les gens ont à dire, il faut avoir confiance aussi en son propre regard, dans le sens où il faut... ça peut paraître un peu prétentieux de penser que les autres vont trouver ça aussi intéressant. Donc il y a aussi cette confiance en soi, en son propre regard, de dire si j'ai regardé ça et si cela m'a intéressé, peut-être que ça va intéresser aussi les autres. Donc de simplement partir sur cette confiance en l'autre, en son propre regard, en sa propre expérience subjective, justement, en se disant si moi-même j'ai ressenti cela, je vais essayer de le partager tout simplement.
Moi aussi, j'ai trouvé que dans les films de David McDougall, il y a quelque chose qui est très difficile à expliquer avec des mots, qui est que très souvent, quand même, le cinéma cherche des séductions. Il cherche à filmer des objets séduisants et faire partager cette séduction à d'autres. Or, dans les films de David, il y a quelque chose qui a l'air de sortir de la matière elle-même. Ce n'est pas un effet d'imposition de l'esthétique sur l'objet. L'esthétique sort de l'objet. Et c'est très difficile de dire pourquoi un endroit qui est moche, avec des murs souillés, avec des choses démolies, des enfants perdus. Il y a une sorte de poésie qui est très puissante, je trouve, et qui est, à mon avis, un point fort de l'anthropologie visuelle, parce que, à moins d'être peut-être, je ne sais pas moi, Charles Dickens ou Gustave Flaubert, on peut difficilement faire ça avec des mots. Et donc là, je suis très content qu'on ait sorti de la période objectiviste de l'anthropologie visuelle, où on filme des objets comme des hommes de science, comme s'il y avait quelque part un point neutre qu'on pourrait atteindre, mais que plutôt c'est, comme dit un peu Laetitia, c'est la qualité du regard qui fait voir, c'est quelque chose qui crée une manière de voir. Et donc, et c'est comme ça qu'on appréhende des objets. Et alors, je voudrais ajouter juste un petit point sur la question de la parole. Enfin, Peter a parlé du silence, qui est très important. Je ne sais pas s'il y a des experts du silence dans le cinéma. On peut penser à Kiarostami, Depardon, David. Enfin, même plus près de nous, Stéphane Breton, il y a une qualité du silence dans les films. Mais il y a aussi une qualité de la parole. Et alors, moi, je fais des choses qui m'amusent beaucoup en ce moment. C'est que, bon, j'ai fait beaucoup de films avec des contraintes de genre de télévision. Enfin, il faut raconter une histoire, il faut être dans un certain format, il faut essayer d'être passionnant très vite, hein, d'une manière impatiente et tout ça. Or, maintenant, j'essaye, comme anthropologue, pas tellement pour le cinéma, de filmer des interviews qui ne sont pas vraiment des interviews, qui sont des sortes de petites provocations que je lance, un débat par exemple sur les relations hommes-femmes dans une société où ça ne se fait pas de parler de ça comme ça. Et ça crée un espace de discussion et du coup les gens se mettent à parler entre eux et moi je ne suis même plus là. Je continue à filmer mais je n'interviens plus du tout. Et je trouve ça très très intéressant parce qu'il y a une sorte d'effort pédagogique d'une culture qui réfléchit sur elle-même avec une petite stimulation extérieure qui n'est pas très, très importante. Et ça crée vraiment quelque chose de très différent d'une interview. On dit « qu'est-ce que vous pensez d'eux ?» comme ça. Voilà.
Oui, je voulais juste ajouter à ce que tu as dit que c'est la chose que nous voyons beaucoup dans la Turkana, par exemple. Voilà. Les conversations Turkana, absolument. C'est exactement ça.
C'est ça, oui.
Je suppose que vous avez, David, proposé un sujet, tu as proposé quelque chose. Mais après, c'est eux qui en parlent entre eux complètement, voilà. Dans leurs termes, avec leurs propres références. Ça, c'est très, très important.
C'est performatif.
Absolument. D'ailleurs, j'ai projeté ce qu'on va voir ce soir, je l'ai projeté à Malte, à un public général. Il y avait une centaine de personnes à peu près. Et les femmes, ça m'a beaucoup frappé, les femmes ont dit « mais c'est la même chose chez nous. Les hommes se conduisent de la même façon, ils disent les mêmes choses. » Il y avait un rapprochement de culture à travers la façon dont c'était filmé. Parce qu'il n'y a pas grand-chose de commun entre ces femmes maltaises et les femmes turkana, en fait. Mais oui. Finalement, elles se retrouvaient dans toutes les discussions, parce que les discussions étaient vraies, elles touchaient vraiment à la profondeur de l'humain, d'une certaine façon.
Alors, David...
Well, I could comment on something that Laetitia has said, and also Peter. First of all... Peter mentioned spectacle and things that are supposed to be of interest, supposed to be exciting. And in fact, these are the most difficult films to make on subjects that are spectacular, that are performative. And I think we are seduced very often into thinking, oh, these are the easy films. You know, there's a spectacular ritual of some kind, or
circus.
There's a circus. There's a very active, there's a lot of action. And in fact, these can be the most boring films that we've seen because they are performances, they keep us at a distance and it's very hard to penetrate into the experience of people actually involved in those events. So it's a kind of false attraction that I think television producers have. They think, oh, we need an exciting topic, you know. If you go out and make a film about a circus or about a spectacular ritual, that's going to be interesting to the audience. But in fact, when I began to make the Dune school films in India, I had an agreement with British television that they would support part of this production. Then they changed their commissioning editor and... of course, that's always potentially a huge change. And I wrote to him and I said, what about this film that I'm going to make in the school in India? And he wrote back and he said, no, I don't think we'll do this. It's we're not interested, really. He said, that kind of subject, it's been tried and it never works, he said. So it was topic-driven very much, this... Yeah. But the thing I wanted to say about patience also and self-confidence that that you mentioned, Leticia, about having confidence in your own vision, in what interests you will be of interest. I think also we have to speak of having confidence in your audience, respecting your audience, and believing that your audience will find value in the things that you find value in. And there's tremendous disrespect for audiences, I think, in television particularly, in this drive to constantly try to generate energy through through spectacular subjects. That's a lack of respect.
Ça me rappelle une petite anecdote. Un jour, je visionnais des films avec une... on était répartis par binôme, deux personnes pour visionner des films. Et je me trouvais avec une dame qui était américaine. Et pendant qu'on visionnait le film, on devait donner un jugement sur ces films, elle faisait tout le temps comme ça. Et alors, à un moment donné, ça me gênait quand même un petit peu. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, je coupe. Parce que les plans étaient trop longs. Et faisait... Bon, c'était épouvantable, bien évidemment.
Oui, par rapport au manque de respect du public, c'est toujours cette surenchère d'explication. On veut toujours expliquer et prétendre que le public ne comprendra pas. Et on se retrouve tout le temps confronté à ça. Donc il faut avoir confiance en ses projets pour dire, mais non, je vais aller jusqu'au bout et essayer de monter le film de telle manière en disant, je suis sûre que les gens vont comprendre. Et c'est quand même fou de devoir se battre comme ça en disant... Même si on argumente en disant, bah, vous-même, vous avez compris, moi-même, j'ai compris, alors pourquoi les gens ne vont pas comprendre, tout simplement
Il y a peut-être aussi une petite chose qu'on peut dire aussi qui est rassurante, c'est que, par exemple, Jean-Luc Godard annonce la mort du cinéma depuis bientôt 40 ans maintenant, mais le cinéma se porte bien dans les salles. Et donc, des événements comme celui-ci, où on regarde les films de David, non pas sur un DVD avec un moniteur, un tout petit moniteur en face de soi, mais dans une salle avec d'autres gens, c'est quelque chose qu'il faut vraiment se battre pour que ça continue, parce que c'est une toute autre expérience. Et la vraie expérience du cinéma, elle est là. Parce que à quoi ça sert de filmer en 16/9, en prenant soin de la lumière, de la couleur, du son, la qualité du son de la mouche qui passe, etc., pour après le voir sur un petit bignou où on ne voit rien, on n'entend rien.
Est-ce qu'on ne devrait pas parler plutôt d'intersubjectivité? En l'occurrence, j'ai trouvé la caméra dans Gandhi's Children très, très subjective. Et il y a de l'interaction entre, manifestement, le cinéaste à travers les plans approchés, etc. Enfin, c'est très techniquement maîtrisé. Et puis... il y a une médiation, puisque moi, j'étais complètement dans la maison, en quelque sorte. Oui. C'est là où je veux en venir, à cette intersubjectivité.
Mm-hmm. Oui, c'est très juste. L'expression « on est dans la maison » convient très bien au film de David. C'est pas facile à faire dans un film, de dire qu'on est vraiment là. L'espace, c'est très difficile à rendre au cinéma. C'est pas si évident. On le voit quand les étudiants font leurs premiers essais, nous-mêmes aussi, etc. C'est pas évident d'être dans un vrai lieu avec des vrais gens. Ça réclame une certaine obsession presque de la qualité des plans qu'on fait, quoi. Je ne sais pas si je trahis David.
No, I agree, and I think one thing we need to think about is the variety of ways in which the filmmaker's subjectivity comes through the film. There's been a kind of obsession with self-reflexivity in past years, which required that the filmmaker constantly declare his or her presence. And I think that ignored the fact that in every shot the filmmaker should be present in some sense. We should have a feeling for the particularity of the vision of the filmmaker behind the camera. And so the filmmaker's presence, I think, should permeate the film. Not something you aim to do, but it's a byproduct. It's a result of a commitment on the part of the filmmaker and a commitment to a particular way of seeing. And I think this intersubjectivity exists as much or even more in this at this level than a much more explicit kind of interaction with the subject. Or, of course, that's also important. I mean, we can have wonderful films in which the interactivity is a very important part of it. But it exists at these other levels.
Parce que ce que souvent les anthropologues entendent par réflexivité, c'est la parole sur soi-même. Et donc là, on a par exemple ces films où on voit quelque chose, on voit des relations avec les gens, et le cinéaste parle de son complexe d'Œdipe, par exemple. Et donc, c'est pas ça pour moi la réflexivité. La réflexivité, c'est qu'en regardant le film, on se dit tiens. C'est pas un zoom, tiens, c'est pas, on n'est pas trop près, on n'est pas trop loin, on n'exploite pas l'enfant parce qu'on essaye de le presser comme un citron, on mesure la distance et tout ça. C'est ça la vraie réflexivité, me semble-t-il. Enfin. Alors, peut-être une autre question
oui.
dans la.
Oui. Ah, oui, je voudrais revenir sur le silence, ou plutôt les silences, parce que je crois que le silence, il est multicouche, et qu'il n'est pas simplement sonore, il est aussi visuel, il nous est arrivé à tous. D'être à la caméra et que d'un seul coup, il n'y ait plus de lumière. Et par contre, il y a toujours du son. Donc, faut-il couper ou faut-il continuer? Je pense qu'il faut continuer. Il ne faut pas couper au bout des 15 secondes. Il faut continuer parce que le son nous donne à voir quelque chose, même si on ne voit plus rien à ce moment-là. Et ce silence-là, il est important. Et d'ailleurs, tu parlais d'Abbas Kiarostami dans Shirin.
Oui.
On entend un film qu'on ne voit pas.
Oui.
Et finalement, ce silence visuel, on le comble par une autre image qui est celle des spectatrices. Et c'est au visage des spectatrices qu'on finit par voir le film qu'on ne voit pas. Mm-hmm. Donc là, le silence, c'est à différents niveaux, je crois. Et alors, dans le film que nous avons vu tout à l'heure de David, au début, moi, j'ai été impressionné, justement, par ce multicouche. Il y a un son qui intervient à plusieurs niveaux. Et j'avais l'impression qu'on entendait un monstre qui est en train de dormir, qui ronfle, on entendrait le bruit de ses entrailles, c'est la ville. Il y a des sons qui sont les sons de la ville. Et se détache de ces sons de la ville des sons plus fins qui sont des petits coups qui nous ramènent à une vie qui est celle des individus. Et donc là, alors qu'on va entrer dans un lieu, dans cette école, avant on sent qu'il y a quelque chose autour, quelque chose d'étouffant, même si le matin est beau, s'il y a la brume, il y a ce bruit qui continue tout le temps, qui est présent en permanence. Et donc là, on voit bien qu'il y a un traitement multicouche du son et des silences aussi.
Alors là, ça mène une question sur la. Enfin, si David accepte de révéler ses recettes de fabrication, mais est-ce que cette qualité du son. On sait que le travail sur le son est très ancien, si on regarde des gens comme Cavalcanti dans les films des années 30, 20 même. Il y avait un travail très, très élaboré sur le son. Mais parce qu'il y a deux stratégies, soit essayer d'avoir sur le terrain des sons les plus intéressants possibles, soit se contenter d'une manière stricte des sons synchrones, ou encore faire des mixages, ce que la plupart des documentaristes font en ayant plusieurs pistes sonores sur lesquelles on travaille. Alors je ne sais pas si tu acceptes de livrer un peu tes...
Well, sound is something that... is very difficult. It's often considered much more difficult than getting good images is to get good sound, usable sound. I don't have any secrets about my use of sound because I treat it fairly fairly directly.
Good mic.
I believe, and especially when you're working alone. I mean. This Gandhi's Children I was making completely by myself. I was shooting, taking the sound. I did the editing. So it was important to have good microphones using, you know, attached, not directly on the camera, but next to the camera. Also working close enough to people so that, which I do anyway. And I'm conscious of sound, of the ambient sound of such an institution. The echoing sound, that sort of thing. But
separate sound.
I do take some separate sound. I do use sometimes several layers in the editing, but not so much. Not so much.
C'est ce qui veut dire que vous avez peut-être remarqué sur le carton d'invitation qui est magnifique, où on voit David jeune, en 68, je crois. Mais on voit que sa caméra n'est pas tout à fait normale. Il l'a un peu trafiqué. Et donc là aussi, pour pouvoir la porter aussi confortablement. Et là aussi, donc, tu as construit un petit bras pour porter le son à l'endroit, à l'angle que tu veux. Ce n'est pas le micro-caméra, quoi. Tu as cette vieille tradition des, je sais pas, les rouches, etc., qui continuent à améliorer la caméra, à travailler sur, sur la machine elle-même.
Of course, when you're shooting with 16 millimeter or 35 millimeter, it's very difficult to do your own sound recording. And I've tried that on one film. It was extraordinarily hard. And so in the past, of course, we used to work always with, if I was shooting with a camera, I would have, Judith would be taking the sound or another sound recordist. And I've found that working alone with this high-definition video now creates a very different rapport with the subject. And even though the sound is maybe more difficult, it's well worth it to try to make a film in which you do your own sound recording.
Mm-hmm. Could I add something there?
Yes, Peter.
Because I think there's an important aspect here. If we take the excerpt we saw from Gandhi's Children this morning, that is the first approximately 60 minutes of a three-hour film. And the sound is crucial there, I think, because it's establishing a sensation of... It's not an establishing shot, it's an establishing environment of the whole school, and that is done much better in many cases by sound. We've not talked yet about the other senses, which are a bit difficult in film, such as touch, such as smell, etc. I'm sure in this case smell would have been rather horrific in establishing a sensation, but it is important, and probably important in a way that in many ways is superior to that of the visual image on its own. But the other thing I just wanted to mention about subjectivity and intersubjectivity, speech, individuality, that the first part of the film that we saw this morning, all the sound had nothing to do with the vococentric, with speech. And again, as soon as words are then introduced, I think we get caught off balance and we start listening to sound in a different way, because now we're trying to concentrate on interpreting the words that are being said. Whereas in the beginning, where there were no words being said really, or not many, we're concentrating so much on the sound that it does give us this sensuous experience. As soon as words are introduced, which they have to be, it makes us listen in a different mode, so to speak. And then perhaps we start to tend to forget, unless we then get a long enough sequence without words again to get us back in that listening mode. So it's both recording of sound to establish a certain sensation, but it's also a mode of listening that we have to become accustomed to. And again, just a final remark there, we are struggling with the difficulty that most films, documentary films, and again, especially television films, they can't at all deal with the fact that there is no sound, because if there's no sound, the audience, that is us sitting in front of our television at home, will immediately take the remote button and switch to another channel where there is some sound.
I think when I look at your films, I always sense a kind of mastership of attention. And my feeling is that it's almost a meditative state that you are in when you're filming, as if through the attention you give to your surroundings and the people, it's unfolding, it's becoming more and more detailed. And that's also that you're following that state of attention almost, which can explain the quality of your image maybe partly. But the problem I find then is that this beautiful state you're bringing us in is not read by many people. There are so few people who want to take the time and the attention to actually step into that mode of looking at the world. Could you reflect on how you perceive that?
On avait la ciné-trans, maintenant on a la ciné-meditation.
No, I think there is a special state that you enter into when you're filming, which is a kind of hypersensitization to the world, that you're experiencing the world doubly or triply the way you would without the camera. It's something to do with the camera connecting you with the world, in a sense. And I think it does put you into a state in which you often, for example, will do really stupid things, like you'll stand in a very dangerous place because you're not concerned about the danger. You're concerned about somehow the world of the film that you're creating and the world that's in front of you. But as far as audiences entering into this, I think it goes back to what I was saying about confidence in the audience. I think if we're successful in getting 25% of the audience to understand our film, to sympathize with our film, that's enough, you know, that's enough. We can't, it's the same with writing a book or writing poetry. You can't expect everybody to be sympathetic to that particular style, that particular subject matter. So some people say, well, you know, you make these films, but not many people see them. But then you think of the typical academic thesis, which is turned into a book, and maybe there are 300 copies published and three readers, one of whom is the writer, the other two are the examiners. And, well, you know, we have a few thousand viewers, that's enough.
Okay.
Yeah. And over time, there'll be more. There'll be more and more, we hope.
Alors, sur l'intersubjectivité, j'avais envie de poser une question aussi sur le fait que, bon, moi, j'ai filmé beaucoup de choses et je retourne sur ces cassettes, je les réécoute, je les retraduis parfois, je les écoute avec d'autres gens, je retourne sur le terrain et je les réécoute. Alors je suis frappé par le fait qu'il y a énormément de choses qui m'avaient échappé, qui sont hors champ, mais qui sont dans le son, et qui parfois parlent de moi. Et donc c'est même parfois un problème, j'ai voulu récemment même filmer un rituel, mais il y a plein de gens qui sont derrière moi, et qui parle de moi. Et donc le son est intrusif et on dit, regarde-le avec son bec, il est en train de vous prendre et tout ça. Et donc c'est inexploitable sur le plan... c'est-à-dire, si j'avais voulu filmer le rituel convenablement, j'aurais dû demander aux gens de se taire ou de ne pas parler de moi ou, je ne sais pas, avoir une sorte de contrat avec eux pour filmer la scène pour elle-même. Et parfois, c'est vraiment drôle d'écouter ce qui se dit. Je me rappelle aussi avec Jacques Lombard et Michel Fielou à Ouaga. Ils avaient passé tous les films qui avaient été tournés chez les lobbies du Burkina Faso. Et puis, les lobbies du village avaient été invités. Ils étaient là et ils riaient tout le temps, alors que nous ne rions pas du tout. On voit rien de drôle dans les films. C'est parce qu'ils entendaient des sons off. De gens qui commentaient les cinéastes, quoi. Et donc parfois c'est plus difficile qu'on ne croit d'avoir simplement d'être oublié, hein, ou bien d'avoir des interactions efficaces aussi, parce que pour que l'interaction soit aussi bonne cinématographiquement, il faut une certaine qualité de son, il faut qu'on voit qui parle, et ça c'est pas facile.
Je voulais simplement rebondir un peu sur les sur les silences, sur les voix off, etc. Donc moi j'ai eu une expérience au Congo et effectivement quand vous montez un film, mettons qu'on vous dise bon 30, je sais pas combien de minutes, il faut que ça fasse 52 minutes si vous voulez que ça passe, etc. Donc on a 15 heures de rush et on va sortir.
Parlez fort parce que.
Ah bon, on a 15 heures de rush, par exemple, ou plus, et finalement, on doit sortir moins d'une heure. Enfin, donc vraiment couper. Alors, on parlait tout à l'heure du silence qu'il fallait garder, mais je pense que si on doit garder tous les silences, on n'arrivera jamais à faire les 50 minutes. La deuxième chose, c'est que, évidemment, les voix off qui parlent de vous, j'en ai eu tout le temps quand j'ai pas eu mon film. Mais j'ai gardé parce que j'ai tout fait traduire. Mmh. Et puis, il y a un moment, c'est vrai que ça, pour le public, ça lui donnait l'impression d'être là et de comprendre que la vedette, par exemple, elle disait oh oui, mais moi, c'était une sortie de rituel. Hein. Oui, ça va aller en France, ils vont me regarder, je suis belle, j'ai bien, enfin, etc. Elle était tout le temps en train pas de minauder, mais de montrer son importance parce que c'était elle la reine de la, mmh. la reine de la. Du rituel. Donc, en fait, il y a ce qui est peut-être gênant aussi, c'est quand on ne voit pas qui parle aussi et qu'on entend derrière. Voilà. Si on fait tout traduire, même ce qui est en voix off, on peut quand même couper si vraiment ça commence à devenir bien, parce que là, autrement, on aurait eu, je ne sais pas moi, peut-être, si on additionne tout, une heure ou deux heures sur les 15 heures de tiens, regarde-moi, tiens, qu'est-ce que tu penses, est-ce qu'ils vont nous emmener, c'est ça, est-ce qu'ils vont nous voir, est-ce que nous, on va aller en Europe avec eux, etc. Donc, toutes ces choses-là, c'est important parce que ça donne de la importance et ça montre aussi comment le tournage du film est reçu par la population et par les entre guillemets les vedettes. Mais on peut pas tout garder, tout supprimer non plus, mm-hmm. parce que ça donne aussi le contexte dans lequel ça se fait, l'ambiance générale autour du sujet, etc.
Oui. Donc c'est mais à la clé de l'affaire, c'est aussi la patience dont on parlait au début, hein, c'est que passer l'effet de la présence de la caméra, quoi. Oui, Peter.
Yes, I think it is patience, and in this case, it's also about persuading the broadcasters to show something longer than 52 minutes is important. But you're raising one important aspect, I think, which sort of permeates the discussion really, but we haven't addressed it directly yet, which is the question of filming in different cultures. And because the whole notion of silence, for example, is very different in different cultures. And I won't make a long story of it, but as we all know, some cultures are extremely noisy in the sense that there's constant noise. Mm-hmm. Other cultures are very silent. And this is not necessarily saying that that in Spain you always have the television running in the bars and it's constant noise. You have all the children running around, etc. If you go to northern Norway, the only thing you can hear is the wind and things like that. But it's also about people, again, when we're talking about breaking silence and then bringing in speech and subjectivity and subjective voices again, in some cultures it's much easier to get people to speak in front of a camera and say what you would like them to say for cinematographic or anthropological reasons. In other cultures, it's almost impossible, either on camera or not on camera. And again, we don't need to distinguish between the sort of European culture and non-European culture, even within our diversity of European cultures. If one were to film in Denmark, where I live, for example, and you went to Copenhagen, you'd have to switch off the microphone because the people from Copenhagen would keep on talking until you do so anyway. But if you film in the western part of the country in rural areas, you might have to have the camera and the microphone turned on forever before you grab a simple, yes, that's right. And we have to acknowledge these differences and find ways of dealing with them in ethnographic filmmaking.
C'est comme le paysan dans le film de Depardon là, qui dit « il y aurait beaucoup à dire » et puis il se tait.
Mais je vais rebondir sur le « beaucoup à dire ». Enfin, bon, vous focalisez pas mal sur le 52 minutes, mais enfin, moi j'ai remarqué une chose travaillant pour le festival Jean Rouche, c'est que depuis quelques années, les réalisateurs ont deux versions de films. Effectivement, ils ont la version télévisée 52 minutes, mais ils ont leur version à eux. Et en festival, je dois dire que c'est à nous de présenter leur version, de sortir de ce sentier battu des 52 minutes, du format télévision.
Voilà.
Qui est souvent le format qu'on espère passer à TV1, mais qui ne passe jamais non plus.
Oui, enfin, de temps en temps, quand même, Arte.
De temps en temps.
On a de la chance.
One comment about silence in films, and I would also call it spaces. I think we have to, and we really haven't talked about this so far, but a film is constructed often like a piece of music. It has rhythms, it has variations in tempo, in pacing, and so forth. And this is just as important. It's not simply a reflection of our subject. It's the way in which the film establishes its own language, its own form of address to the audience, and creates a certain mood, a certain receptivity toward the subject. So films require space. They require air to breathe at times. They require changes of pacing and the spaces that allow us as an audience to enter the film somehow in our own imagination. And the 52 minutes, in a sense, if you say you have to cut the film down to 52 minutes, I have no problem with that, but then you shouldn't destroy the pacing and the rhythm of your film just to make it 52 minutes. You just do less in 52 minutes.
Oui, Thierry Garrel avait une métaphore qui était assez cruelle. On disait très souvent, on coupe le bébé parce qu'il est trop grand pour le berceau. Et, bon, c'était une manière cruelle de parler des commissioner editors. Plus de questions ? Une question là ? Oui, monsieur là-bas.
Pour revenir sur la construction des films de David, peut-être c'est... Il faut voir que dès 71, avec Living with Earth, il nous met dans la maison, même si là, il n'y a pas de maison, mais c'est vraiment ça aussi. Il met le spectateur d'emblée sur le terrain, au milieu du campement. Mm-hmm. Il y a toujours cette manière un peu de travailler, justement, sans explication. Parfois, dans des films, on donne tout dès le début. Hein. Il faut tout expliquer. Mm-hmm. On est quelle tribu, quel pays, qu'est-ce qu'ils font tout de suite. Alors que lui, quand même, il place les gens d'emblée sur le terrain et qu'au fur et à mesure, on découvre...
Mm-hmm.
On élargit comme ça notre perception de leur monde, notre compréhension aussi qui va en grandissant. Et ça, c'est intéressant parce que, justement, on laisse la part de réflexion au spectateur aussi.
Oui.
C'est-à-dire, au début, il ne sait rien sur ces gens-là, il n'y comprend rien. Et au fur et à mesure, on lui donne des informations à partir de leur vie quotidienne. Mais on s'aperçoit qu'il y a toujours un contexte plus large. Et c'est ce qui intéressait aussi... Et McDougall, au départ, c'était quand même de toujours montrer ce contexte plus large, les relations avec l'extérieur, même si les gens avaient un terrain délimité.
Oui.
Et que ça, c'est intéressant, parce qu'on a toujours l'impression de voir des films où les gens sont complètement isolés, ils n'ont aucun contact avec les autres, soit ils sont là depuis la nuit des temps, et puis on ne sait pas du tout ce qu'ils font. Mm-hmm. Donc il y a plein de commentaires comme ça qui ne servent à rien, alors que finalement, le spectateur, tout seul, peut quand même à comprendre plein de choses. Et qu'on aimerait bien pouvoir faire ça aussi à l'écrit.
Oui.
Parce qu'il peut y avoir aussi cette dimension-là.
Mais en fait, si on regarde bien les anthropologues qui ont un certain succès, disons même universitaire, pas seulement un succès de librairie, on s'aperçoit qu'ils écrivent très bien aussi. Et donc, je pense qu'on a un peu souffert d'une opposition artificielle entre science et art. Et en fait, le cinéma doit utiliser ses propres ressources. C'est ça qui est très beau dans les films de David McDougall. C'est que c'est par les moyens du cinéma qu'on... Alors, peut-être c'est l'idée du corporeal image. Je sais pas si c'est peut-être un peu tard pour développer ça, mais c'est quand même un concept intéressant. Qu'est-ce que c'est que le corporeal image ?
C'est le titre d'un livre qu'a écrit David. Donc,
This book is really touching on many aspects of the relationship of body, the human body to films. It's the body of the subject of the film. It's the body of the filmmaker in relation to the subject. It's the embodiment of emotion, of the senses, many aspects, really, which this book deals with in sometimes in quite oblique ways, but... So I don't know. I think we come back to this idea of intersubjectivity again, which you raised about how we create images with our bodies and how we perceive them in a physical way. But I wanted to just add one point about which might be misleading if we think that simply by putting unmediated experience on the screen, that this will necessarily be of interest to anybody. We have to realize that filmmakers have to be extremely clever, extremely strategic in the way in which they introduce the material of their films to bring the audience into that world. It can't just be placed before you like a slice of life, and you can't expect that to be enough in itself. So it's a, of course, it's a creative process. It's a process of understanding the psychology of the viewer as you perceive it might be, to bring the audience along with you. You know, this is important.
Il y avait un monsieur là, oui. Pour rebondir un peu sur la réflexivité, justement, dans l'approche cinématographique, je voulais savoir à quel moment on se pose la question pour qui on fait le film. Est-ce qu'on fait le film pour soi? Est-ce qu'on fait le film pour les personnes qu'on filme, justement? Ou est-ce qu'on le fait pour le public qui va voir le film ensuite?
Big question.
Peter?
Well, we are paying homage to David McDougall here, so I will refer to his films. And he started off this morning saying that he always makes long films. That's not quite true, because he has made a few short films. And one from the same series as To Live With Herds, Among the Year in Uganda, is called Under the Men's Tree. And among other things, I think it's about reflexivity and the various levels of reflexivity that Jean-Paul was referring to. What is fascinating about that film, referring to the questions of intersubjectivity, reflexivity, etc., and silence and action, is that in this very short film, which is about these cattle herders taking a break because the sun is too hot, so they go into the shade and they just sit around and talk to each other and joke with each other. And it's marvelous because it is really a film about an incident in the everyday life of these cattle herders in which nothing happens, so to speak. And I think it's perhaps one of your most ethnographic films, in the sense that you're capturing an ethnographic reality out there that is of no interest, perhaps initially, than to others than anthropologists. The reflexivity comes in not only in the intercultural relationship between the filmmaker and the subjects in the film, but also because they are discussing, the subjects that is, about their subjective interpretations, not only of everyday life, but of all sorts of things that we find hilarious as a Western audience to listen to, and especially at this stage. They're talking about Einstein's theory of relativity, in a sense, when they're talking about how fast motor cars can drive, although we're in a part of Africa which at the time was not exactly exposed very much to the outside world. So you sum it up very nicely in that film, I think, David. It's all about reflexivity. It's all about the importance of non-action, in quotation marks, to what we're trying to do both as filmmakers and anthropologists.
But I think the only thing that makes that film work is the fact that they're having a discussion about a kind of reverse ethnographic discussion about the behavior of motor cars and the drivers of motor cars as they perceive that. These are, you know, cattle herders who have spears and who live very far from this kind of world. So you could take another 15 minutes of men sitting under a tree in which there's just miscellaneous chatter, and it would be uninteresting, I think. I mean, except to a specialist. And I think the reason that film works is because it's a selected piece of conversation that we find quite interesting. But in answer to the question about audience, who do you make the film for? I think, of course, you make it for yourself, in the sense you have to satisfy yourself as a filmmaker that you feel it's a successful film in your terms, that it's not cheating, that it's not... It's aesthetically successful from your point of view, but I don't like the idea of trying to make films for a specific target audience outside, because I think films can have multiple audiences. And we found this again and again, that you take the same film and you show it to a university audience, and then you take the film and show it to an audience of quite uneducated people. They may, if it's a good enough film, they will both get something out of it. They'll read it at a different level.
Mm. Well, it was just a very short comment of one of the horrid aspects of teaching visual anthropology, which is that we actually have to teach our students to make their 30-minute film, that's the institution that's saying it can only be 30 minutes, to reach one audience, and that's their external examiner. That's our main preoccupation. We have to make them make a film that will satisfy the external examiner. Now, fortunately, we usually manage to get them to make films that attract the attention of a much wider audience. But I would say it's an extreme limitation imposed on ethnographic film made by students by the institutions in which they're produced, and we're constantly struggling with that.
Non, moi, je n'ai rien de particulier à dire là-dessus. Non, spécialement.
Oui. C'est un énorme problème. Moi, j'aime assez l'idée de... Bon, c'est peut-être un peu pompeux, mais c'est l'idée de Todorov, du surdestinataire. Parce qu'en fait, on fait... Et si on fait ce métier d'anthropologue, c'est pas pour des résultats rapides. On sait bien que, je veux dire, pour 10 minutes de bons films ethnographiques, combien de travail investi ? Pour deux pages d'ethnographie un peu consciencieuse, combien de temps de notre vie, etc. Donc, on ne fait pas ça pour un résultat immédiat, pour une target, une cible. Il y a une sorte de surdestinataire. C'est pour plus tard, pour un jour, peut-être dans 50 ans, quelqu'un va faire une thèse sur ce film ou s'y intéresser ou relire ça. Enfin, c'est assez joli, cette idée du surdestinataire, je trouve.
Cette question de pour qui on fait le film, c'était la question que Rouge posait toujours au festival. Oui, oui, oui. Pour qui as-tu fait ton film ? Et puis à un certain moment...
Pour moi d'abord, il disait.
Mais Rouge le posait aux autres. Hein. Oui. Lui, on n'a pas besoin de savoir, on savait la réponse. Oui. Mais il le posait aux autres. Et effectivement, à partir d'un certain moment, disons il y a peut-être une quinzaine d'années, ça n'avait plus de sens. Parce que tout le monde disait... pour le public général, pour la télévision. Et en fait, il y avait tout le temps derrière cette idée que ça allait passer partout. Il y avait des millions de téléspectateurs qui le verraient, etc. On sentait que c'était plus vraiment, on ne pouvait plus avoir vraiment une cible précise. Oui. À un certain moment, c'était plus clair. C'était pour les scientifiques, pour les gens du pays. Enfin, puis à un moment donné, c'était general public, tout le monde. Quoi.
Et puis alors, il y a une chose choquante quand même, c'est que bon, on a des institutions qui commencent à nous aider sérieusement. La preuve, c'est qu'on est ici à la BNF, mais ça reste très difficile de voir des films. Hein. Il y a des films qu'on a vus il y a 10 ans dans un festival, et pour les revoir une deuxième fois, c'est vraiment dur. Hein.
Il faut demander à la BNF de les acheter.
Voilà.
Merci beaucoup.